Bonjour, bienvenue à cette séance des questions orales et c'est la députée des Verts, Sonia Burich-Massmann, qui pose la première question.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le village de Blatone n'était pas classé comme zone à risque sur la carte des dangers du canton du Valais. Selon le géologue cantonal, seuls les événements avec une probabilité d'occurrence allant jusqu'à une fois tous les 300 ans sont pris en compte. Alors que l'on sait que le réchauffement climatique augmente la fréquence et l'intensité des événements extrêmes, est-ce que cette règle de classification des dangers naturels est également appliquée dans le canton du Jura et le cas échéant, est-ce que de tels dommages aux bâtiments non classés dangers naturels sont couverts par l'établissement cantonal d'assurance? Je remercie le gouvernement pour l'intérêt porté à cette question.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre David Herret.
Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Alors, Madame la députée, la réponse est deux fois oui. Donc oui, le standard, est uniforme au niveau suisse pour définir finalement les zones à risque. Et donc, il est tenu compte d'une probabilité d'occurrence allant jusqu'à une fois tous les 300 ans. Ça, c'est au niveau national, ce que tous les cantons appliquent. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, bien évidemment, le Jura n'a pas le même contexte que les cantons alpins. Les dangers naturels chez nous sont plutôt liés à des événements météorologiques extrêmes, orages, vents violents et également les crues avec les cours d'eau. Mais ça n'en empêche pas que notre registre soit mis à jour de façon régulière et qu'il soit finalement évolutif en fonction notamment des mesures de protection qui sont prises et qui modifient ce registre des dangers ou également des nouveaux événements qui surgissent tels que des chutes de pierres inattendues qui également nécessitent de l'adapter. Au niveau de l'établissement cantonal d'assurance, alors je dirais que nous avons une chance dans le Jura, c'est que l'assurance immobilière est obligatoire. Et donc, tous les bâtiments sont assurés par l'établissement cantonal d'assurance, qui est donc une assurance monopolistique, ce qui n'est pas le cas de tous les cantons suisses, et notamment le Valais, qui n'a ni établissement cantonal, ni obligation d'assurer les bâtiments. Donc, nous sommes à ce niveau-là un peu plus sereins en cas d'événement pour les propriétaires, pour qu'ils soient indemnisés correctement par cette assurance. Voilà donc ce que je peux vous donner comme information, Madame la députée, et je vous remercie de votre attention.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Sonia Burich-Massmann est satisfaite. Pour la deuxième question orale, je passe la parole à Madame la députée Sophie Guenot.
Monsieur le Président, chers et chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres, un incendie majeur s'est récemment déclaré dans les Franches-Montagnes, nécessitant une mobilisation rapide et efficace des services de secours. Toutefois, la forte affluence de curieux et le non-respect des périmètres de sécurité auraient pu perturber cette intervention et en affecter les conditions de travail des secours et la protection du public. Face à des situations récurrentes, il est essentiel de réfléchir à des mesures permettant d'assurer un cadre d'intervention optimal tout en préservant la sécurité de tous. D'où ma question. Quelles mesures le gouvernement envisage-t-il pour encadrer et limiter la présence de curieux sur les lieux d'un sinistre afin de garantir l'efficacité des secours et la sécurité publique? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Madame la ministre Rosalie Berecis.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Il est vrai que lors des interventions des feux bleus, en particulier des sapeurs-pompiers, il est fréquent que des passants s'arrêtent par curiosité pour observer le déroulement des opérations. Et là, j'abonde dans votre sens, Madame la députée, cette attitude, bien que souvent anodine en apparence, perturbe malheureusement le bon déroulement des secours. Par rapport à l'incendie que vous décrivez, un premier véhicule mal stationné a entravé l'accès d'un camion de pompiers au site de l'incident. Un second véhicule a ensuite obstrué l'accès à une borne hydrante, élément essentiel pour l'approvisionnement en eau. Ces comportements, comme vous l'avez relevé, ne sont pas sans conséquences. En plus de retarder les secours, ils exposent les curieux à des risques inutiles et compliquent la logistique de gestion du sinistre. Il est important de rappeler que l'intervention des pompiers repose sur les principes suivants. Premièrement, sécuriser le site et garantir la sécurité de l'intervention. Deuxièmement, sauver les personnes, les animaux et les biens. Troisièmement, tenir le sinistre pour en empêcher la propagation. Quatrièmement, protéger ce qui n'est pas encore touché. Et, en dernier lieu, maîtriser totalement le sinistre. Lors d'une intervention, les sapeurs-pompiers procèdent dans un premier temps à la sécurisation de l'environnement immédiat du sinistre. Dans un second temps, un périmètre de sécurité plus étendu peut être mis en place, soit par la police, soit par les sapeurs-pompiers eux-mêmes. Suite à la situation décrite, je peux vous confirmer qu'une attention renforcée sera portée à la sécurisation des lieux lors des prochaines interventions. Une sensibilisation spécifique sera également intégrée aux prochaines formations à destination des cadres sapeurs-pompiers. Finalement, il est essentiel de sensibiliser la population à l'importance de ne pas interférer avec les opérations de secours, aussi impressionnantes soient-elles. Je vous remercie de votre attention.
Merci, Madame la Ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Sophie Guenot est satisfaite. Pour la troisième question orale, je passe la parole à Monsieur le député Thomas Vuillaume.
Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers et chers collègues, des rave-parties sont organisées à échelle européenne. Les participants bafouent a priori toutes les règles de notre société et de l'État de droit. Notamment, ils cherchent à occuper illégalement des terres agricoles sans aucune précaution sanitaire ni environnementale. Dernièrement, grâce au hasard, à la vigilance et au courage de quelques citoyens de la vallée du Folpota, ils ont été empêchés de s'établir dans la région de Souls. Il semble que leurs canaux d'organisation soient sécurisés et ne permettent pas aux autorités de sécurité de prendre des mesures en amont. Ma question, est-ce que la police cantonale, respectivement les polices des autres cantons, ont des solutions ou des projets pour contrecarrer en amont ces activités illégales et néfastes à l'environnement et à l'agriculture ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à madame la ministre Nathalie Barthoulot.
Oui, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, il est certain que la rave party qui s'est déroulée ce week-end à Malraux n'a pas fini de faire du bruit. La prévention de ce genre d'événements illégaux est un enjeu important, comme vous l'avez mentionné, en termes de sécurité publique, en termes de préservation de l'environnement et en termes de protection contre les nuisances, c'est évident. La police, de son côté, peut intervenir à plusieurs niveaux, mais la clé réside surtout dans l'anticipation de tels événements. Dans les facteurs déterminants, on peut tout d'abord mentionner une veille active sur les réseaux sociaux, qui est d'ailleurs fort complexe à mener. Vous l'avez mentionné, ils utilisent des réseaux cryptés, des réseaux sur lesquels il est difficile d'entrer, donc c'est aussi difficile pour la police de savoir ce qui va se passer ou ce qui se prépare. On peut mentionner également le partage d'informations avec les autres polices de Suisse et des pays alentours. Il n'y a pas que la police jurassienne qui est en veille active, toutes les polices le sont, et puis les polices françaises aussi, en Italie aussi. Donc il y a un partage d'informations régulier entre celles-ci. Mais on doit également pouvoir compter sur la vigilance et l'observation des citoyens et des autorités communales. Vigilance d'ailleurs qui s'est montrée totalement déterminante ce week-end pour empêcher l'organisation de cette rave party à Souls. La police cantonale a d'ailleurs récemment rappelé à toutes les communes que lorsque quelque chose d'anormal était observé, que cela soit des mouvements inhabituels, des colonnes de voitures ou des installations suspectes par exemple, était observé, qu'il fallait l'en informer sans délai pour lui permettre d'intervenir le plus rapidement possible. On le sait, quand il y a quelques rêveurs, c'est facile d'intervenir. Quand ils sont 200, 300 déjà, c'est quasiment trop tard. La police dispose bien évidemment d'un protocole d'intervention pour faire face à ce type de manifestations illégales. Les interventions sont complexes car elles doivent respecter aussi la proportionnalité par rapport aux actes délictueux. Mais des mesures dissuasives peuvent également être mises en place, comme des barrages routiers, des contrôles préventifs des véhicules ou encore l'interdiction d'accès à certains sites. Enfin, monsieur le député, je peux encore vous préciser que suite aux événements de ce week-end, la police cantonale jurassienne va s'approcher de la police cantonale bernoise pour tirer les enseignements nécessaires de cette fâcheuse expérience et renforcer encore, au besoin, son protocole d'intervention.
Merci, madame la ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Thomas Vuillaume est satisfait. Pour la question orale numéro 4, je passe la parole à monsieur le député Philippe Rotet.
La question vient d'être posée. Merci.
Merci. Nous passons à la question orale numéro 5. Et pour ce faire, je donne la parole à Madame la députée Florence Bösch.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, concernant le projet de géothermie profonde à Haute-Saône, nous apprenions avant-hier que l'autorisation des tests de stimulation hydraulique était délivrée à l'opérateur par les autorités cantonales avec l'appui du groupe d'experts indépendants. Ainsi, ces tests seront réalisés dans le puits exploratoire à une profondeur d'environ 3800 mètres et prévoit une injection issue du réseau communal par palier sans ajout ni de produits chimiques, ni de sable, ni de solide. Ma question, quel a été l'apport du groupe d'experts indépendants formé de 6 ingénieurs et scientifiques de haut niveau dans le contrôle et la validation du programme de travail de détail présenté par Géoénergie Jura? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre David Herret.
Voilà, Monsieur le député, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, effectivement, Madame la députée, votre question est pertinente. Le groupe d'experts indépendants a joué un rôle majeur pour appuyer finalement le gouvernement, les services cantonaux dans la préparation de la décision. Donc, il a assisté, bien évidemment, les services cantonaux en vérifiant les documents en lien avec les tests de simulation hydraulique, en lien avec la surveillance sismique qui accompagne les tests. Donc, ses membres ont pris connaissance des documents qui ont été transmis par l'opérateur. Ils ont posé des questions. Ils ont également demandé des précisions. Ils ont contribué à l'amélioration du programme initial, ainsi qu'à une anticipation plus poussée des situations imprévues. Donc, des mesures de pression et de température, par exemple, seront plus systématiquement mesurées. Et le programme de gestion des potentielles fuites en profondeur et des eaux en surface a été consolidé. Le groupe d'experts indépendants va assurer un suivi journalier des tests avec les paramètres d'injection, la sismicité induite, l'intégrité du puits. Il va également assister le Service sismologique national dans la catégorisation des séismes pour définir si un séisme est induit par les opérations ou s'il est d'origine naturelle. Le groupe d'experts indépendants va également vérifier que les résultats des tests de stimulation soient intégrés de manière pertinente au programme de l'opérateur pour les phases suivantes du projet. Le groupe d'experts indépendants, il faut le savoir, a été très actif ce semestre. Il s'est réuni 2 fois en janvier, puis tous les mois depuis lors, pour une durée dépassant 20 heures de travail avec tous ces experts scientifiques. Voilà donc, en résumé, les activités et l'appui donné par le groupe d'experts indépendants aux autorités jurassiennes.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Florence Bösch est satisfaite. Pour la question orale numéro 6, je passe la parole à Madame la députée Katia Lehmann.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers et chers collègues, plusieurs jeunes candidates et candidats à l'année propédeutique santé APS ont reçu la semaine dernière un courrier leur annonçant que, faute de place disponible, leur dossier avait été placé en liste d'attente. Le quota pour les admissions APS est fixé par chaque canton. Les critères du choix sur dossier restent assez mystérieux. Pour les heureux admis, cette première régulation en précédera la plupart du temps une seconde au terme de l'APS. Cette fois sur examen pour tenter d'obtenir enfin le précieux sésame et entrer dans une des 7 filières santé. Une double régulation avant d'entrer en HES, on voudrait démotiver à se former dans ce domaine que l'on ne s'y prendrait pas autrement. Cette sélection pour entrer en APS, qui s'apparente à un numerus clausus déguisé, est selon nous en totale contradiction avec le projet de loi sur l'encouragement à la formation dans le domaine des soins. D'où ma question. Quelles mesures concrètes le gouvernement entend-il prendre pour garantir un accès le plus large possible à l'APS, passage obligé pour bon nombre d'étudiantes et étudiants pour entrer dans les filières HES santé? Je vous remercie pour votre réponse.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre Martial Courtet.
Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Madame la députée, non, rien de neuf en réalité. Chaque année, ça se passe de la même façon. Ce n'est pas un numerus clausus. Il y a 170 places disponibles. Les années passées, les personnes sont aussi sur liste d'attente. Et au fil des mois, ça se décante puisque beaucoup de jeunes maintenant ont l'habitude de s'inscrire à plusieurs endroits, dans plusieurs filières différentes. Et finalement, au fil des mois, ils vont peut-être trouver la place idoine et ils vont donc sortir des autres inscriptions. Donc, dans les années passées, ça fonctionne exactement de la même manière. Toutes les candidates et candidats ont trouvé une place par rapport à cette démarche auprès de la HEARC. Préciser quand même que la manière de procéder, c'est-à-dire admission, organisation des filières, dépendent de la HEARC, pas de chaque canton. En l'occurrence, nous sommes tricantonal. S'il fallait changer de manière, évidemment, si on se rendait compte cette année que ça ne fonctionnait plus comme les autres années et que des jeunes restent sur le carreau, évidemment, nous reprendrions ça au comité stratégique pour dire que là, il faut ouvrir plus de classes. Mais pour l'instant, ça a toujours fonctionné. Donc, à ce stade, nous n'avons pas de crainte par rapport à cette fin d'année. Et le cas échéant, encore une fois, si ça devait être le cas, cette année, sur ces 170 places, il y avait plus de candidats au final qui étaient intéressés par cette filière, importante filière, comme vous le disiez, effectivement. Eh bien, il n'y a aucun problème pour s'inscrire dans d'autres filières propédeutiques hors du canton, et c'est aussi pris en charge par le canton au niveau des frais. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. C'est l'organisation habituelle qui aura lieu. Préciser que j'insiste là-dessus, si cette année, contrairement à ce qui s'est passé les autres années, on ne devait pas pouvoir répondre à toutes les demandes, évidemment, alors ce point remonterait au comité stratégique pour dire qu'il nous faut ouvrir plus, notamment dans la phase actuelle. Et vous évoquez les soins, alors nous sommes parfaitement d'accord, il faut encourager ces soins. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une priorisation qui est faite, vous parlez des critères, je peux peut-être donner cet élément. Une priorisation est faite pour les jeunes qui ont suivi notre filière du Cégef, par exemple, pour les Jurassiens, la filière d'IVSSA, donc santé, sociale, art. C'est une filière santé, donc priorité pour ces jeunes qui se sont déjà orientés dès l'école secondaire pour être dans les filières santé. Donc ça, c'est déjà mis en place depuis de longues années. Et par rapport à cela, voilà ce que je peux vous donner comme élément. Mais pour l'instant, voilà, rien de neuf par rapport aux autres années. Et encore une fois, si ça devait être le cas, bien sûr, de nouvelles classes seraient ouvertes. Merci de votre attention.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Katia Lehmann est partiellement satisfaite. Pour la question orale numéro 7, je passe la parole à Monsieur le député Baptiste Laville.
Merci, Monsieur le Président. Réchauffement climatique, la Suisse romande s'apprête à vivre un épisode de chaleur et un été qui s'annonce très chaud, selon Météo Suisse. La barre des 30 degrés sera dépassée cette semaine et on atteindra bientôt les 35 degrés. Des températures élevées constituent un risque important pour la santé humaine et particulièrement pour les personnes âgées, les maladies chroniques, les femmes enceintes, les enfants en bas âge et les nourrissons. Ces groupes doivent être spécialement protégés lors de canicules. Face aux importants risques de canicule cet été, quelles mesures concrètes le gouvernement jurassien prévoit-il pour protéger les personnes les plus vulnérables et assurer une bonne coordination entre les services concernés ? Pouvez-vous également préciser comment la population sera-t-elle informée en cas de forte chaleur ? Je remercie le gouvernement pour ses réponses.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Stéphane Teria.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, chers et chers collègues, cet été, le risque de canicule est effectivement élevé. Le gouvernement jurassien est pleinement mobilisé pour protéger la population, en particulier les plus vulnérables, comme les personnes âgées, enfants, malades chroniques, personnes isolées et travailleurs en extérieur. Le médecin cantonal a rappelé à tous les établissements concernés, tels que maisons de retraite, crèches et hôpitaux, les consignes à suivre en cas de forte chaleur, c'est-à-dire plus de 20 degrés Celsius pendant plusieurs jours d'affilée. Les recommandations clés sont les suivantes. Se protéger de la chaleur en restant chez soi et en limitant l'activité physique. Boire régulièrement, même sans soif, et manger léger. Garder son logement frais, volet fermé le jour, ouvert la nuit. Donner des nouvelles à ses proches. Consulter un médecin en cas de malaise. À noter que des brochures détaillées sont disponibles sur le site de l'OFSP. La population sera informée par Météo Suisse via son site web et son application, ainsi que par Alerte Suisse, si nécessaire. La coordination entre les services de l'État et les partenaires est assurée dans le cadre de notre plan canicule cantonal. La protection de la santé, surtout des plus fragiles, est notre priorité absolue. Nous appelons chacun à la solidarité et à la vigilance. Le gouvernement et l'ensemble des services sont pleinement préparés à affronter les épisodes caniculaires.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Baptiste Laville est satisfait. Pour la huitième question orale, je passe la parole à Monsieur le député Quentin Haas.
Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, dans un récent reportage de Mise au point, nous apprenions qu'en raison d'un manque d'effectifs et des conditions de travail toujours plus difficiles, près d'un soignant sur deux rend sa blouse blanche avant la retraite. Ces professionnels au bord du burn-out déplorent un travail à la chaîne, un manque d'empathie ainsi que des risques sérieux pour les patients. Malgré le projet fédéral pour améliorer les conditions de travail du personnel soignant, proposant notamment une baisse du temps de travail, beaucoup de soignantes et soignants encore en poste craquent. L'Association suisse des infirmières et infirmiers rapporte un nombre alarmant d'appels à l'aide, amenant parfois à des cas d'erreurs médicales graves. Au regard de ces témoignages, le gouvernement peut-il nous rassurer quant à la situation des soins médicaux prodigués dans le canton du Jura ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Stéphane Teria.
Oui, mesdames, messieurs, le gouvernement est conscient de la dégradation des soins en Suisse ces dernières années. 30% des infirmiers quittent leur profession après 4 ans. Rythme intense, séjours hospitaliers raccourcis, manque de personnel, absentéisme et surcharge administrative pèsent sur l'ensemble du secteur, pas seulement à l'hôpital. Selon l'Association suisse des infirmiers, 15 900 soignants supplémentaires seront nécessaires d'ici 2030. La pénurie touche aussi les médecins, les sages-femmes, les physiothérapeutes. Le Parlement se prononcera cet automne sur la loi visant à encourager la formation en soins en lien avec l'initiative acceptée en 2021. Ce projet prévoit un soutien financier pour les institutions formatrices et les futurs étudiants, avec pour objectif de doubler le nombre d'étudiants jurassiens d'ici 2032. Le gouvernement n'a pas connaissance d'erreurs médicales graves dans le canton directement liées aux conditions de travail, mais reconnaît que la pression croissante fragilise la santé mentale et physique du personnel soignant. Le deuxième volet de la loi fédérale portant sur l'amélioration des conditions de travail n'a pas encore été mis en œuvre au niveau fédéral ni cantonal. Son application n'est malheureusement pas attendue avant 2028. Malgré les actions en cours, le gouvernement admet que la difficulté de la situation, il rappelle que ce malaise est général dans le système de santé et ne se limite pas au milieu hospitalier. Il remercie vivement les professionnels pour leur engagement et la qualité de leur travail auprès des patientes et des patients.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Quentin Haas est satisfait. Pour la 9e question orale, je passe la parole à madame la députée Irène Donzé.
La question a déjà été posée.
Merci. Nous passons à la question numéro 10. Et pour ce faire, je passe la parole à madame la députée Francine Stettler.
Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues. Suite à la MOC qui a eu lieu la semaine dernière en Autriche, beaucoup de parents se sont inquiétés de la sécurité dans nos écoles. Un événement aussi tragique qu'on pensait encore impossible chez nous a pourtant frappé l'un de nos pays voisins. Cela montre clairement que ce genre de drame n'est plus une menace lointaine, mais une réalité qui pourrait aussi toucher la Suisse. Cet événement nous rappelle que personne n'est totalement à l'abri et qu'il est important de revoir sérieusement les mesures de sécurité mises en place dans nos établissements scolaires. Dans ce contexte, le gouvernement peut-il nous garantir que notre canton dispose aujourd'hui de dispositifs de sécurité et de prévention suffisants pour faire face à de tels risques ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à madame la ministre Nathalie Bartolo.
Oui, monsieur le président, mesdames et messieurs, on concertait avec Martial Courtet, qui a les écoles et j'ai la sécurité. On se disait qu'on aurait pu faire une réponse à deux voix, mais voilà, je prends la réponse. Donc, comme vous le mentionnez, madame la députée, la tuerie qui a eu lieu en Autriche au début du mois a profondément choqué l'opinion publique. Et puis elle nous a surtout rappelé que de tels événements peuvent aussi avoir lieu dans des pays qu'on pourrait qualifier de sûrs et stables, comme l'Autriche ou la Suisse ou ailleurs. Dans le canton du Jura, cela fait plus de 10 ans que les corps de police, tant au niveau cantonal que communal, bénéficient de formations spécifiques sur les interventions en cas d'AMOC. Ces formations reposent sur des protocoles romans harmonisés qui définissent différents principes d'engagement pour les primo-intervenants, c'est-à-dire de neutraliser la menace, de protéger les victimes et d'éviter l'escalade. La préparation opérationnelle évolue bien évidemment en parallèle et les polices adaptent leur équipement, qui ne remplace bien évidemment pas la formation, mais qui sont un complément indispensable. Par ailleurs, la police adapte continuellement ses planifications d'intervention, non seulement pour les établissements scolaires, mais aussi pour les autres lieux publics du canton.
L'objectif est clair, assurer une capacité d'intervention efficace sur tout le territoire jurassien en tenant compte des spécificités locales. La collaboration avec les milieux scolaires est un pilier essentiel pour ce genre d'événement. Les responsables d'établissement reçoivent régulièrement des informations et des consignes de la part de la police et ce travail de préparation est fondamental. Et je dirais même continue parce qu'évidemment, avec l'événement qui s'est produit la semaine passée, il y a un re-questionnement qui sera fait et une remise à jour, je dirais, des protocoles. Pour conclure, je dois bien avouer qu'il serait un peu présomptueux d'affirmer que le canton est prêt à gérer un événement aussi dramatique qu'une tuerie de masse. La complexité, le caractère imprévisible, mais aussi l'ampleur d'un tel drame font qu'aucun système ne peut garantir véritablement une réponse parfaite. Cela dit, toutes les mesures qui relèvent de notre responsabilité collective, donc à mon collègue et à moi, ont été prises, que ce soit au niveau de la formation, des équipements, des plans d'action et de la collaboration avec les écoles. Toutes ces mesures sont en place et il ne reste franchement qu'à espérer qu'un tel drame ne se produise jamais dans notre canton.
Merci Madame la Ministre. Quelle est votre appréciation Madame la députée ? Madame la députée Francine Stettler est satisfaite. Pour la question orale numéro 11, je passe la parole à Monsieur le député François Monin.
Mesdames et Messieurs les ministres, refusant l'initiative des femmes PLR sur l'imposition individuelle, le Conseil fédéral lui a posé un contre-projet indirect visant à rendre individuelle l'imposition de couples mariés qui paient aujourd'hui plus d'impôts que les concubins. Si la dépénalisation du mariage est louable, il crée de nouvelles inégalités pour les couples mariés à un seul revenu. De plus, ce changement majeur induirait des pertes fiscales importantes pour les collectivités, estimées à 600 millions pour la Confédération et à plusieurs millions pour le canton du Jura. Surtout, il exigerait d'aller à l'encontre de ce que nous défendons ici toutes et tous, une administration efficiente et un combat pour le maintien des prérogatives cantonales, à savoir notre fiscalité. Des dizaines de milliers de déclarations d'impôts supplémentaires devraient ainsi être traitées pour un seul canton, un monstre administratif engendrant moins de rentrées. Récemment, une grande majorité de la CDF s'opposait tant à l'initiative populaire sur l'imposition individuelle qu'au contre-projet. Elle préfère la taxation commune des couples mariés, recommandant aux gouvernements cantonaux de s'engager en faveur du référendum des cantons contre l'imposition individuelle en raison de son coût élevé et des charges supplémentaires sur les finances publiques. Ma question est donc la suivante. Le gouvernement jurassien s'est-il engagé à la CDF pour un référendum des cantons contre l'imposition individuelle et soutiendra-t-il notre Parlement si nous l'exigions ?
Merci, Monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Madame la ministre Rosalie Beret-Sis.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, comme vous le rappelez, une large majorité des cantons, dont le Jura, se sont exprimés contre l'introduction de l'imposition individuelle. Malgré cela, le projet a été accepté par les chambres fédérales le 3 juin dernier. Le vote final est attendu pour le 20 juin. Si ce vote aboutit à une adoption, un référendum facultatif pourra être lancé. Ce référendum peut être demandé par 50 000 citoyennes et citoyens ou par 8 cantons dans un délai de 100 jours suivant la publication officielle de l'acte. Si cette publication intervient par exemple le 1er juillet prochain, le délai référendaire courra donc jusqu'au 9 octobre 2025. Une telle démarche permettrait au peuple de se prononcer. Lorsque l'initiative vient des cantons, c'est généralement le Parlement cantonal qui est compétent pour décider. Tel est le cas dans le canton du Jura. Concrètement, chaque député peut saisir le législatif via une intervention en matière fédérale afin que le sujet soit débattu lors d'une prochaine session. Dans le cas présent, il serait nécessaire de déposer l'intervention ce jour ou au plus tard début septembre pour être dans les délais. Le gouvernement, de son côté, a également la possibilité d'initier cette démarche. À ce jour, il ne s'est pas encore prononcé sur cette question, même si des discussions sont en cours au sein des conférences intercantonales. Ainsi, si vous souhaitez vous saisir de cette thématique et que notre canton participe à cette démarche référendaire, je ne peux que vous inviter à déposer une intervention en ce sens dans les meilleurs délais.
Merci Madame la Ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député François Monin est partiellement satisfait. Nous passons à la question orale numéro 12. Et pour ce faire, je donne la parole à monsieur le député Patrick Cerf.
Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les ministres, chers collègues, un salaire à temps plein doit-il permettre de vivre dignement ? Je répète, un salaire à temps plein doit-il permettre de vivre dignement ? À cette question basique, le chef de l'Union patronale suisse a répondu non. cité dans Blic, il a en effet poussé le cynisme néolibéral jusqu'à son paroxysme en déclarant, sans rire, « On ne peut pas demander aux employeurs d'assurer la couverture des besoins vitaux des travailleurs ». Fin de citation. Ce monsieur verrait par ailleurs d'un bon œil que l'aide sociale prenne le relais des bas salaires. En clair, les bénéfices pour les riches et les coûts pour l'État. On le voit, les salaires cantonaux minimaux sont attaqués de toutes parts. Hier encore, la majorité du National a mis à mal la souveraineté de plusieurs cantons romands en la matière. Le gouvernement peut-il nous garantir que tout soit mis en œuvre pour maintenir un salaire minimum jurassien conforme à la loi cantonale en vigueur? Merci de votre réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Stéphane Teria.
Oui, monsieur le président, mesdames, messieurs, suite à l'adoption par les chambres fédérales de la motion déposée par le conseiller aux États Eric Etlin et intitulée « Protéger le partenariat social contre les ingérences discutables », le conseil fédéral a proposé, contre son avis, une modification de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail. Cette modification permet d'étendre les salaires minimaux des CCT qui seraient inférieurs à ceux inscrits dans les lois cantonales. Elle a été adoptée par le Conseil national le 17 juin et elle passe désormais à la commission compétente du Conseil des États. Comme le Conseil fédéral et la quasi-totalité des cantons, le gouvernement jurassien s'est constamment opposé au principe de faire primer les salaires minimaux des CCT sur les salaires minimaux figurant dans les législations cantonales. En effet, une telle modification va à l'encontre de l'ordre juridique suisse dans la mesure où les cantons sont compétents pour adopter des salaires minimaux en matière de politique sociale. Par ailleurs, une CCT est un contrat conclu entre des acteurs privés et pas une loi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les autorités administratives ne sont pas habilitées à contrôler le respect d'une CCT ni à agir contre une violation de celle-ci. Cela dit, si cette modification de la LECCT devait être adoptée par le Conseil des États et entrer en vigueur, elle serait sans conséquence sur le salaire minimum jurassien. En effet, le salaire minimum jurassien ne s'applique pas aux branches économiques soumises à une CCT, de force obligatoire ou non, mais qui comporte un salaire minimum chiffré. De même, les salaires prévus dans les contrats types de travail ont la primauté. J'espère vous avoir rassuré, monsieur le député.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Patrick Cerf est satisfait. Nous passons à la question orale numéro 13. Et pour ce faire, je donne la parole à monsieur le député Raoul Yagui.
Monsieur le président, chers collègues, madame, messieurs les ministres, la question précédente parlait du BLIC. Je vais en parler aussi. J'espère qu'il y a quand même des députés qui lisent le quotidien jurassien en dehors des séances du Parlement. Ça va de soi. Une récente étude sur l'immobilier de Wüst et Partners, se basant sur les données de l'enquête sur le budget des ménages de l'OFS et relayée notamment par le BLIC, justement, présente le Jura comme un Eldorado pour l'acquisition de logements pour les moins de 35 ans en comparaison nationale. Le gouvernement entend-il tirer parti de cette étude pour mettre en avant le canton comme lieu de vie attractif et attirer de jeunes familles dans notre canton?
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Stéphane Teria.
Oui, merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs, l'étude à laquelle se réfère le BLIC corrobore les enquêtes du Crédit Suisse sur le revenu disponible en Suisse, dans lequel le Jura offre des conditions de vie particulièrement attractives. La promotion économique et Baselaréa font d'ailleurs valoir cet atout depuis de nombreuses années dans la prospection sur les marchés extérieurs. Comme le gouvernement a déjà eu l'occasion de le dire au Parlement, cet avantage ne suffit pas à lui seul. Le Jura n'abrite pas de hautes écoles, avec des centres de recherche, à l'instar de l'Université de Bâle ou des écoles polytechniques. Or, il s'agit là d'une importante source de main-d'œuvre à la fois internationale et hautement qualifiée. L'attractivité du canton dépend également d'une offre d'emploi hautement qualifiée, à même de faire venir de jeunes jurassiens ou en provenance d'autres cantons, voire de pays voisins. Le site jurassien du Switzerland Innovation Park Baselaréa a précisément pour vocation de renforcer les collaborations entre la recherche et l'économie afin d'attirer des projets d'innovation et des talents. C'est aussi un objectif important des collaborations avec le domaine des EPF, un objectif que partage totalement la présidente de l'EPFL et son vice-président pour la recherche et l'innovation. Tous deux sont convaincus que le domaine des EPF peut apporter une contribution concrète à notre canton. C'est pourquoi le gouvernement est persuadé qu'un renforcement des partenariats avec les hautes écoles et la recherche, la présence du Switzerland Innovation Park, alliée aux conditions et à la qualité de vie offertes par le Jura, dont les prix du logement, sont essentiels pour assurer le développement futur du canton. Il faut toutefois être clair, c'est un processus qui s'inscrit dans la durée et dont les résultats ne seront pas toujours immédiatement perceptibles. Mais je puis vous assurer que c'est la voie que suit le gouvernement et que c'est la bonne voie.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Raoul Yegui est satisfait. Nous passons à la question orale numéro 14. Et pour ce faire, je donne la parole à Monsieur le député Alain Schwein-Grubert.
Ma question portait sur l'imposition fiscale individuelle des couples. Elle a déjà été posée. Il y a déjà été répondu.
Merci, Monsieur le député. Nous passons à la question orale numéro 15. Et pour ce faire, je donne la parole à Monsieur le député Yves Gigon.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs le Ministre, chers collègues, j'ai appris dernièrement que des filles musulmanes vont au collège Stockmar à Porrentruy voilées. Cela peut choquer et inquiéter. En effet, le voile est le symbole d'un islam politique et de soumission des femmes. Alors, une croix est interdite dans les classes scolaires, on permet le port du voile. Ça interpelle à tout le moins. Quelle est la position du gouvernement sur ce sujet ?
Merci, Monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre Martial Courtet.
Oui, merci, Monsieur le Président, Messieurs les députés, chers collègues. En fait, pas d'actualité, Monsieur le député, parce que c'était exactement, j'ai recherché brièvement dans les archives, c'est exactement votre question orale de 2017, donc je ne peux que vous répondre la même chose, quand même pour vous rassurer. Au niveau des enseignantes, elles ne peuvent pas, au niveau de la loi sur le personnel, porter de voile, donc ça c'est impossible, puisque l'alinéa 8 de l'article 22 précise que l'enseignant doit respecter l'opinion des élèves et s'abstient de toute propagande. Par contre, pour les élèves, c'est différent. Et c'est exactement ce que j'avais déjà répondu, et rien de neuf depuis. Le fait que, pour un élève, il y ait un intérêt public suffisant, ça c'était une décision du tribunal fédéral de 2015 qui le dit, du moment que le visage n'est pas entièrement dissimulé, eh bien, ça ne restreint pas la communication entre élèves et enseignants. Donc, ça a été autorisé depuis cet arrêt du TF. Par contre, ce qui est évidemment interdit, c'est le fait qu'il y ait un voile intégral du type niqab ou burqa qui restreindrait complètement la communication. Ça, évidemment, c'est interdit. Mais donc, pour savoir ce que fait le gouvernement jurassien, eh bien, nous appliquons cette décision du TF. Par rapport à Stockmar, nous avons pris quand même des renseignements. Ça concerne deux élèves vraiment qui ne posent aucun problème. Nous n'avons aucun souci par rapport à cela, ni par rapport aux autres élèves, ni par rapport aux enseignants. Et le retour de la direction d'école est très positif par rapport à ces situations. Donc je pense vraiment qu'il n'y a pas du tout lieu de s'alarmer.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Yves Gigon est partiellement satisfait. Pour l'avant-dernière question, c'est-à-dire la 16e question orale, je passe la parole à Madame la députée Valérie Bourquin.
Voilà. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, le rapport 2024 de la Caisse de pension du Jura indique que 20% de la fortune sont investis dans des actions internationales auxquelles il convient probablement d'ajouter une part des placements en private equity. Dans le contexte du conflit israélo-palestinien et des accusations de violations graves du droit international humanitaire à Gaza, le gouvernement peut-il garantir que la CPJU n'investit pas directement ou indirectement dans des entreprises en lien avec l'État d'Israël ou les territoires occupés, susceptibles de contrevenir au droit international ?
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Madame la ministre Nathalie Bartolo.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. En préambule, je tiens à dire que je partage votre questionnement, Madame la députée, et que lorsque l'on voit l'horreur absolue qui prévaut dans la bande de Gaza, on doit clairement dire que ça suffit. Concernant la caisse de pension, elle gère les avoirs de prévoyance professionnelle de ses assurés avec une stratégie d'investissement diversifiée et prudentielle et dans le respect des dispositions légales fédérales et des principes éthiques reconnus. Cette stratégie est régulièrement réexaminée par les organes compétents afin d'assurer la pérennité du système de prévoyance le deuxième pilier, tout en tenant compte de l'évolution des marchés et des attentes de la société. Comme cela a été précisé par la directrice de la Caisse de pension du Jura en commission de gestion et des finances la semaine dernière, la Caisse de pension du Jura ne détient pas de placements identifiés comme étant en lien direct avec des entreprises israéliennes ayant des activités économiques liées avec le conflit. La Caisse de pension du Jura investit sur le marché international via des fonds qui concernent pour la plupart différents marchés de pays développés. Israël ayant été classifié depuis plusieurs années dans la catégorie des pays développés selon l'indice MSCI, cela signifie que des entreprises israéliennes sont détenues indirectement par les caisses de pension suisses. La part est infime, moins de 0,15% de l'indice, et les entreprises se concentrent fortement dans des secteurs de technologie de l'information, de la santé ou des énergies propres. Des filtres, notamment en matière de violation de droits humains, sont par ailleurs appliqués par les gérants de fonds, garant que ces entreprises ne sont pas engagées dans des conflits comme ceux vécus actuellement dans la bande de Gaza. À ce jour, aucun des fonds détenus par la Caisse de pension du Jura ne figure sur les listes de surveillance des organisations spécialisées en matière d'éthique ou de droits humains pour de tels motifs. La Caisse de pension du Jura applique par ailleurs des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, les fameux critères ESG, dans ses décisions d'investissement en conformité avec les standards admis dans la gestion responsable d'actifs publics. Ces critères incluent des exclusions relatives à des violations graves des droits humains, ce qui englobe les conflits armés et les situations controversées au regard du droit international. En résumé, la Caisse de pension agit dans un cadre prudent, responsable et respectueux des principes fondamentaux d'éthique. Elle reste à l'écoute des évolutions politiques et géopolitiques et veillera, cas échéant, à adapter ses pratiques si cela devait s'avérer nécessaire.
Merci, Madame la Ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ?
Je suis satisfaite.
Madame la députée Valérie Bourquin est satisfaite et nous arrivons à la dernière question orale, la question orale numéro 17. Et pour ce faire, je passe la parole à Monsieur le député Pierre-André Comte.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, pour revenir au sujet du feu vert donné par les experts pour une validation de la poursuite du projet de géothermie profonde en Haute-Saône, j'ai une question sur l'indépendance des experts en question. Vous me permettrez de penser qu'il s'agit là d'une interrogation légitime, raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir y répondre. Je ne remets pas en cause les compétences scientifiques des personnes mandatées, comment le pourrais-je ? Cependant, un doute m'habite, comme il interpelle un certain nombre de citoyens soucieux de la sécurité d'un projet toujours très contesté. L'expertise étant financée par le promoteur, à moins que vous me démentiez, et certains experts étant, semble-t-il, impliqués dans l'industrie géothermique, ce qui mettrait en lumière quelques conflits d'intérêts, le gouvernement estime-t-il que l'indépendance des experts est assurée ?
Merci, Monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre David Herret.
Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Monsieur le député, alors votre question est légitime et effectivement, un expert doit être indépendant, il doit être fidèle à la science. Et je vous le répondrai simplement par un exemple très simple. Le groupe d'experts indépendants a requis des mesures supplémentaires de sécurité auprès de l'exploitant, ce qui n'était pas très plaisant pour l'exploitant, qui a donc dû engager d'autres procédés, d'autres analyses, notamment l'analyse sismique 2D puis 3D a dû être élargie suite à une exigence des experts que le gouvernement a bien évidemment suivie. Et ceci démontre que les experts sont indépendants, ne sont pas du tout inféodés à l'exploitant et agissent de manière scientifique.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ?
Je ne suis pas satisfait.
Monsieur le député Pierre-André Comte n'est pas satisfait. Nous avons donc épuisé le point 3 des questions orales.
Voilà, c'est donc la fin de cette séance des questions orales au Parlement jurassien. Vous pourrez en retrouver l'intégralité dans le courant de la journée sur notre site internet rfj.ch. Très belle journée.